y a deux mois, l'historien Benjamin Stora a rendu un rapport au président de la République. Son titre, Rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. À ce jour, cette mémoire continue de faire polémique des deux côtés de la Méditerranée. Plusieurs artistes de France sont nés en Algérie. Étienne Dao, Philippe Pascal du groupe Marquis de Sade, Rachid Taha. Arrivé en France en 1968 à l'âge de 10 ans, Rachid Taha a dû changer de langue. Au début des années 80, il cofonde le groupe Carte de Séjour dans la banlieue de Lyon. Il disait que l'anagramme de ce nom, Carte de Séjour, c'était « l'art de jouer sec ». En 1998, au journaliste Gérard Lefort qui lui demandait « Ne craignez-vous pas de devenir un porte-parole sur l'Algérie ?» Rachid Taha a dit « Porte-parole de qui ? Porte-parole de quoi ?» Je réponds toujours « Porte de Clignancourt ». Rachid Taha, ou l'histoire d'un homme qui a su allier l'invention musicale, le sens de la fête et la politique. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
C'était la fièvre du samedi soir. Il y avait des curlis sur la table basse et des amis sur le sofa. Tous devant la télé, à cloper des gauloises au son de ce générique. Sur l'écran s'écrivait en fluo « Droit de réponse, l'hebdo de Michel Pollack ». Petit, il n'y comprenait pas grand-chose, mais il avait l'air de s'y passer des trucs importants. Extrait de l'émission du 3 mars 1982.
Thierry Auffray, Thierry Auffray, maintenant laissez-moi vous faire écouter un groupe qui n'a pas encore eu la chance ni de passer à la radio, ni à la télévision. C'est un groupe de Lyon, et ce groupe a un intérêt particulier, je crois que c'est le seul, c'est en tout cas le premier. C'est un groupe qui est un groupe de rock arabe, composé de deux Marocains, deux Algériens et un Français. Voici Carte de Séjour. Carte de Séjour à vous.
Naïma Uberyahi n'était pas devant sa télé ce soir-là. En tout cas, Rachid Taha est entrée dans sa vie très vite. Aujourd'hui, Naïma Uberyahi est historienne et co-commissaire de l'exposition Douce France.
Moi, je l'ai découvert petite parce que je suis d'origine algérienne. Et nous, ça nous a fait assez halluciner de voir un arabe en perfecto se déhancher en arabe sur du rock, sachant que nous, la musique arabe, ça nous gonflait prodigieusement.
Comment ça vous gonflait?
Nos parents, ils écoutaient Oum Kalsoum, ils pleuraient, ils étaient là, ils écoutaient chansons arabes, et nous, on était tellement autre chose, les enfants d'immigrés. Je sais pas, j'ai un souvenir, j'ai une dizaine d'années, moi j'ai la quarantaine aujourd'hui, et nous, la musique arabe, c'était has-been, c'était la loose, quoi. Et on voit un gars complètement, ouais, un peu punk, un peu rock, vraiment sur des riffs de guitare, chanter en arabe avec une voix rauque, et on s'est dit, mais il a tout compris, en fait. C'était l'extraterrestre, c'était nous. L'extraterrestre que nous étions était possible, c'est-à-dire que ce n'était pas les Arabes comme nos parents qui étaient tournés vers là-bas, c'était des Arabes d'ici qui étaient à la fois reggae, rock, punk et qui parlaient un espèce d'arabe frelaté, parce que son arabe, c'est même pas un arabe que comprennent vraiment mes parents, vous voyez. Il parle un arabe qui emprunte ce qu'on appelle la Darija. Darija, c'est le dialectal. C'est une langue qui n'a jamais été reconnue comme légitime. Même dans les pays d'origine, c'est une langue de la rue algérienne, de la rue marocaine et autres. Dans cette Algérie post-coloniale, on fait la promotion de l'arabe littéraire, une espèce d'arabe qui s'écrit, mais qui ne se parle pas. Et Rachid, c'est un enfant d'immigration. Il arrive jeune en exil en France. Et lui, il rend ses lettres de noblesse à cet arabe de la rue, et qui plus est un peu frelaté, parce que nous, on est français. On ne sait pas encore, mais on est français, donc on a une pratique de l'arabe un peu en train de glisser vers le français, quoi. On ne sait pas trop quel arabe on parle exactement. Et ben cette honte de ne pas maîtriser la langue, il nous l'enlève. Il va nous donner le droit d'exister. C'est énorme, quand même. Enfin, moi, je trouve.
Retour sur le plateau bordélique de l'émission Droit de réponse, menée par Michel Pollack, ici
Madame
en mars 82.
Madame Molinier, Rabat, c'est mieux que Rabat Jean Mouquer, mais pourquoi pas faire venir un groupe français?
Oui, encore des propos racistes.
Bah écoutez, enfin, faut bien essayer.
Et l'un des fondateurs de Carte de Séjour réussit à prendre la parole.
On essaye de pouvoir s'exprimer dans notre langue, dans le rock'n'roll, et que j'aimerais que
la presse française en général ne mise pas sur les histoires de délinquance.
C'est un côté négatif. Ça.
Côté négatif. Je connais des peintres, je connais des musiciens, je connais des médecins, je connais des tas de personnes arabes qui essayent de s'exprimer en France, qu'on rejette. Alors nous, ce qu'on veut faire, c'est s'exprimer dans ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la musique. On veut montrer qu'il n'y a pas les autochtones qui peuvent faire de la bonne musique.
Non, mais...
Un dernier mot aussi, oui. Puisqu'on parle de pas mal de maisons de disques.
Et ça, c'est Rachid Tahar.
Des grands médias, on a été visiter des maisons de disques. Bon, on va vous dire comment ça s'est passé. La première fois, je ne vais pas cacher le nom de la boîte où on a été voir, c'était CBS. On arrive chez un bureau, on nous dit d'attendre la personne qui doit nous écouter la musique. Alors on présente la cassette, il y a Kulch, il y a Hello Fennar, il y a Désolé, faut être français, enfin il y a pas mal. Et à la fin de la cassette, il dit, ah, c'est bien dommage, le type qui s'occupe de la musique folklorique, il n'est pas là. Alors...
C'est trop beau, ça. 1984, le groupe Carte de Séjour finit par publier son premier album, Roromani, c'est le titre.
C'est la Roromani, danse d'aujourd'hui.
On grandit dans des familles immigrées, moi immigrée arabe, arabophone, algérienne, et dans des quartiers ouvriers. Et donc, on écoute de la musique de prolo, Renaud, Bob Marley. Nous, on écoutait du reggae et les Jackson parce qu'on se prenait pour des Noirs. Nous, on sentait qu'on était les Indiens, on n'était pas les cow-boys. Donc, la musique rock et punk, c'était pas pour nous. On connaissait pas les origines noir-américaines du rock. Nous, on était vraiment dans... Ça, c'est un truc de petit blanc. Et nous, on est le ghetto et on écoute la musique du ghetto. Et on voit un arabe qui, avec ses congénères, se permettent d'aller faire du rock dans les langues de l'immigration.
Cette chanson, Roromani, commence par ces mots-là. Qui a dit, les Noirs, c'est louche. Qui a dit, les Arabes, y en a trop. Et le morceau est un manifeste des influences musicales du groupe. Dans le texte, Rachid Tahar contre Jimmy Cliff, c'est le kiff. Otis Redding, ça swing. Wilson Pickett, ça pète.
Et nous, on se dit, ben, peut-être que le rock, dans son côté sauvage ou contestataire, ça peut être aussi notre musique. Nous, à l'époque, on pense qu'on n'est pas français. On pense qu'on est des immigrés et qu'on n'est pas chez nous. Personne ne pense qu'on est chez nous. Nos parents veulent rentrer au bled et la France nous donne des cours de langue d'origine à l'école pour qu'on rentre au bled. Donc on se dit, bon ben voilà, c'est tout, on n'est pas français. Et Rachid, quand il vient foutre un peu le coup de pied dans la fourmilière en faisant ça, c'est révolutionnaire.
Rachid Tahar, qu'est-ce que je ferais pas?
Voici l'autrice Brigitte Giraud. Lorsque Rachid Tahar est mort à l'âge de 59 ans, le 12 septembre 2018, Brigitte Giraud a publié un texte dans le journal Libération où elle dit notamment ceci. « Carte de séjour est avant tout un groupe de rock. J'aime écouter sans comprendre, me laisser porter par le souffle, le battement, ce truc qui vous prend et vous invite à danser. C'est basique, comme dirait l'autre, c'est viscéral. » Vous vous levez aux premières notes comme ces serpents qui se dressent au son de la flûte. Ça vous change en cobra.
J'habitais dans une banlieue lyonnaise qui s'appelle Rieux-la-Pape, banlieue dans laquelle Rachid a atterri, si on peut dire. Il est arrivé en France en Alsace, où il a rejoint son père qui travaillait, puis ensuite son père a continué à chercher du travail ailleurs, et il est arrivé dans la banlieue lyonnaise pour travailler, et c'est là que Rachid, lui-même travaillant à l'usine sur la zone industrielle de Caluire et de Rieu, c'est là qu'il a rencontré les frères Mohamed et Bokhtar Amini, à la suite de quoi ils ont créé le groupe Carte de Séjour. Donc on habitait dans la même banlieue et le rapprochement s'est fait, on va dire, naturellement, de façon géographique.
Ça a été quel choc, je ne sais pas si c'est le terme, mais ça a fait quoi, cette musique-là qui déboule dans votre vie ?
Si, ça a été un vrai choc parce que c'était une musique absolument décomplexée, très rock. Parce qu'en fait, moi, je fais partie des personnes qui, au sortir de l'adolescence, s'est mise à écouter du rock copieusement. Et ce rock venait principalement d'Angleterre. C'était le début du mouvement punk, puis après le post-punk et la new wave. Et le rock venait des États-Unis. Mais on avait toujours l'impression qu'il fallait aller ailleurs, que ça venait d'ailleurs et qu'ailleurs c'était mieux que la France et que c'était mieux surtout que la banlieue dans laquelle on habitait. C'est vrai, quand on habite dans une banlieue, c'est pas tout à fait comme le fait d'habiter à Paris. Par exemple, dans une ville comme Paris, il y a un groupe qui s'appelle Joy Division qui est venu donner un concert. À Lyon, beaucoup moins. Et alors, quand on habite Rieux-la-Pape ou Vaux-en-Velin ou Vénissieux, là, il faut vraiment vouloir les choses très fort pour que ça advienne. Et ce qui était magnifique et ce qui nous a aussi décomplexé, c'est que tout à coup, il y avait quatre garçons qui habitaient à 100 mètres ou à 200 mètres de chez moi et qui allaient très rapidement faire partie des musiciens les plus importants du pays et bientôt de la planète. Alors j'exagère peut-être un peu, mais à peine. Et c'est quelque chose qui tout à coup vous permet de vous regarder en face et de trouver une place qui soit pas une place de déclassé, qui soit pas une place de banlieusard.
En 1982, Carte de Séjour sort son premier maxi 45 tours. Dessus, il y a donc l'une des premières chansons écrites par Rachid Taha, c'est Zoubida.
Zoubida, c'est Me Too avant l'heure. Zoubida, c'est
Naïma Uberyahi.
C'est le sort de ses sœurs, de ses cousines, de ces jeunes maghrébines qu'on dit les borettes à l'époque, qui vont être en rupture de banc, vraiment, qui vont être dans un conflit de loyauté. S'émanciper du patriarcat traditionnel maghrébin, parce que c'est plutôt les maghrébines en général. Il va raconter les mariages forcés. Zoubida, c'est une jeune fille qui finira par se suicider pour échapper au sort qui est le sien. Il le fait parce que lui, il commence à chanter en accompagnant des groupes de militantes maghrébines dans la région de Lyon qui s'appellent les Ahmad banlieue et les Jalb pour jeunes arabes de Lyon et sa banlieue, qui sont animés par des filles, et des filles qui portent haut et fort des revendications de femmes, notamment contre, j'allais dire, les traditions et pour l'émancipation des filles. L'exemple le plus connu, c'est Farida Khelfa, la mannequin, qui va fuir, elle vient aussi des Minguettes, qui va fuir un mariage forcé et qui va venir danser au palace, être repérée par Louboutin, par
Azdine Alaïa, Jean-Paul Goud.
C'est ça. Et qui va être, en fait, qui va incarner ces filles qui vont fuir la tradition et qui vont vouloir vivre leur vie. Et Zoubida, ça raconte ça.
C'est 20 ans pile après les accords d'Évian qui mettent fin à la guerre d'Algérie. Dans le journal Libération du 12 septembre 2018, Brigitte Giraud écrit « Rachid Taha et Carte de Séjour entrent en scène, frappent fort, et met un peu de sel sur une plaie restée à vif de la guerre d'Algérie, qu'on nommait événement, et à laquelle mon père prit part quand il avait 20 ans.
Et Rachid, lui, était né en 1958, à Sig, près d'Oran, donc en pleine guerre d'Algérie. Quand il est arrivé en France, il avait une dizaine d'années, il ne parlait pas français ou très peu, donc il a dû apprendre le français, il a dû faire ce qu'on appelait à l'époque s'intégrer. Mais comme on le disait, on est 20 ans après les accords d'Évian, ce qui veut dire que les plaies de la guerre d'Algérie sont loin d'être refermées. Et dans la famille de Rachid, il y a notamment un oncle qui a subi la torture pendant ces années de guerre d'Algérie. Et je pense que c'est des choses qui laissent évidemment des marques. Et la France, telle qu'elle était à ce moment-là, moi, en grandissant dans cette banlieue, il y avait ce qu'on appelait des ratonnades. Et moi, j'entendais ce mot dans les cages d'escalier. Je savais qu'il se passait des choses violentes. Et c'est vraiment quelque chose qui bouleverse une enfance et une adolescence.
Il est 20h sur Antenne 2 et dans toute la France. Bernard Rapp vous présente le journal le 3 décembre 1983.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Finale en forme d'apothéose cet après-midi de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Un final que personne n'aurait osé imaginer le 15 octobre dernier lorsque 32 jeunes immigrés décidaient de traverser à pied la France pour attirer l'attention sur les problèmes qui sont les leurs et qui les touchent chaque jour, c'est-à-dire l'indifférence et souvent même l'hostilité dont ils font l'objet.
L'effectif de cette marche n'a cessé de gonfler depuis son départ de Marseille le 15 octobre 1983 jusqu'à son arrivée à Paris le 3 décembre. Elle se voulait rassembleuse, elle s'appelait Marche pour l'égalité et contre le racisme, et on l'a réduite à l'expression Marche des beurs. Extrait d'un reportage diffusé sur FR3 le 3 décembre 83.
Vous êtes venu nombreux de Marseille ?
Au moins 400, oui.
Et pourquoi vous êtes monté de Marseille jusqu'à
Parce
cette manifestation ?
Croit à la marche.
Qu'est-ce que vous croyez ? Qu'est-ce que vous attendez ?
Un monde meilleur pour nous, si c'est possible. On ne demande pas la lune, on demande de vivre, c'est tout.
Et vous croyez que la manifestation, la marche, va servir à quelque chose ?
Oui, il y a l'intérêt.
Oui. On est là. Ça prouve au moins qu'on est maintenant capable de s'organiser entre nous.
Et vous croyez que ça va durer après la marche ?
Oui, il faut un suivi, il y aura un suivi. Il y aura un suivi un peu dans toutes les régions, je crois. Dans toutes les régions de France.
30 ans plus tard, 2013, aucune cérémonie ou quasi ne commémorera la marche pour l'égalité et contre le racisme. Toumi Djaïdja, sa figure emblématique, aurait refusé d'y participer. Après la marche, il a repris son quotidien en cité et vécu la dégradation de la vie en banlieue. Ce morceau de carte de séjour s'intitule Nar. Nar, ça veut dire le feu.
Carte de séjour, c'est la bande originale de ces années-là. Néanmoins, Rachid et ses comparses, notamment les frères Amini, accompagnent déjà ces mouvements sociaux. Dans les années 70, pour la mort de Mohamed Diab, qui meurt dans un commissariat à Versailles, pour accompagner des mouvements sociaux comme Rock Against Police, qui étaient des concerts et des débats organisés par des militants dans les quartiers, pour la mort de Kader à Vitry, pour la mort d'Enbi à Nanterre, ou celle du petit Taoufik à la Courneuve, à la Cité des 4000, il était déjà pleinement avec son groupe inscrit dans ce rock antiraciste.
C'est quoi toutes ces morts-là ?
Au début des années 80, entre 78 et 83, plus d'une quarantaine de jeunes arabes meurent dans des crimes racistes ou sécuritaires. C'est la période de ce qu'on appelait les tontons flingueurs qui va donner naissance à la marche, qui est une marche pacifiste pour dire stop. Un des slogans de la marche, c'est « Rengainé, on arrive ». Et Rachid, dans une chanson qui s'appelle « Nar », va égrener les noms de ces jeunes qui sont abattus à l'époque. Ils font partie de ces groupes qui vont se produire, qui vont accompagner de manière underground ces mouvements sociaux dès la fin des années 70, début des années 80. J'ai presque envie de dire que ce groupe naît de ces mobilisations, même s'il va s'en émanciper.
chanter ce que tu aimes. On va faire une chanson bien française, une chanson de Charles Frédéric, qui s'appelle 12 France. Vous connaissez 12 France ? 12 France. Il revient dans ma mémoire des souvenirs familiers. Vous savez ou bien ? 12 France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Non mais ça vous va ou pas? Vous avez compris, il y en a qui grincent des dents. Hein? On touche au patrimoine, hein? Mais c'est le nôtre aussi, hein? Oui ou non? Si vous êtes là, vous êtes d'accord avec nous, merde! Oui? Ça très bien, on peut chanter, nous? Ouais? Non? Il y a des Arabes qui disent non. Non? Tu sais qu'il y a des racistes arabes hein, aussi, hein? Hein? Faut pas non plus croire que tout le monde est parfait. Il revient dans ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient dans ma mémoire des souvenirs familiers.
Nous sommes le 15 juin 1985 à un concert organisé par SOS Racisme, place de la Concorde, à Paris.
Des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois.
Naïma Uberyahi, historienne.
Mais il va vite prendre ses distances avec SOS et avec l'antiracisme institutionnel. Quand Jack Lang et Charles Trenet vont distribuer la reprise orientale de Douce France en 86 lors des débats des lois Pasqua, qui vont restreindre le droit à la naturalisation et au séjour, eux refusent d'entrer dans cette forme d'association ou récupération, le mot un peu fort, mais ils ne veulent pas être l'hymne de l'intégration des années beurre. Et surtout, ce sont des artistes. Il a toujours assumé, j'allais dire, ses origines liées aux mouvements sociaux portés par les enfants d'immigration, mais il a toujours refusé d'être enfermé là-dedans, d'être, comme il disait, le cas social. Mais à chaque fois, il était rattrapé par l'actualité des Arabes de France. Et il a toujours su s'en dépêtrer. Mais c'est douloureux.
Sauf événement imprévu. Donc improbable.
Le 16 janvier 1991, le président de la République François Mitterrand s'adresse aux Français pour annoncer la guerre du Golfe.
Les armes vont parler. Tout repose désormais sur les soldats des 29 nations alliées dont les forces sont en place dans le Golfe et pour ce qui nous concerne, sur notre cohésion nationale. La patrie fera face aux heures difficiles qui s'annoncent en préservant son unité.
C'est la guerre du Golfe et en France, il ne fait pas bon être arabe. Des tribunes sortent dans la presse qui conjurent les enfants d'immigration dans les quartiers de ne pas prendre fait et cause pour Saddam Hussein, parce que les pays arabes soutiennent Saddam Hussein. On a tendance à l'oublier. Et donc, on voit un peu cette jeunesse maghrébine comme la cinquième colonne, l'ennemi intérieur qui ne va pas être, j'allais dire, solidaire de la communauté nationale. Et c'est dans ce contexte-là que chanter en arabe, c'est pas du tout une bonne idée. Rachid, c'est plein d'être boycotté. On n'est pas dans les années qui vont suivre, les années Rai, où là, ça passe. C'est vu un peu comme la musique du soleil, 1, 2, 3 soleil. Là, on est en 91, et Rachid, avec ses chansons en arabe, n'est plus le bienvenu.
Après la séparation du groupe Carte de Séjour en 1989, Rachita quitte la banlieue de Lyon pour monter à Paris, comme on dit. En 91, année de la guerre du Golfe, il publie son premier album solo, Barbès, et c'est aussi le titre de cette chanson.
C'est quoi cette chanson, Barbès ?
Barbès, lui qui est un enfant de l'Est de la France et de la région lyonnaise, c'est ce Barbès un peu mythique pour lui, où il allait avec son père quand il était jeune, et qui était cette espèce de condensé de l'Afrique et du Maghreb. Barbès, c'est comme Marseille, c'est une porte d'entrée vers la France. C'est un sas culturel. Il y a des odeurs familières pour celui qui vient de là-bas. Il y a des couleurs, il y a des musiques, il y a des faciès. Ça nous permet, quand on vient d'Afrique, de découvrir l'opulence occidentale. Barbès est connu au bled comme l'endroit où il y a un tati. Bon, même maintenant, il est en train de fermer, mais le mythique tati qui prenait tout le bas d'immeuble. Et on venait faire ses emplettes à Barbès comme une espèce d'Eldorado de l'opulence. C'est là aussi on trouvait les chanteurs de raï et la musique. Il y avait les vendeurs de cassettes. Vous vous rendez compte qu'on venait d'Algérie pour acheter de la musique à Barbès ? Ça, c'était dans les années 80. Cette chanson, elle restitue ce folklore. C'est un peu sous les ponts de Paris coule la Seine, mais là, c'est Barbès. Et lui, c'est son ancrage patrimonial.
Le patrimoine, Rachida ne l'oubliera jamais. Mais en ce début des années 90, c'est la dance, la musique électronique qui l'intéresse. Il plonge dedans avec son compagnon de route depuis ses débuts avec Carte de Séjour, c'est le producteur anglais Steve Hillage. Et Rachid Taha fait entrer la politique dans les clubs.
Voilà que ça recommence.
Voilà que ça recommence.
C'est un événement à double titre.
Partout, oui, ça avance.
C'est un événement musical et c'est aussi un événement dans le champ politique français parce qu'il interpelle l'opinion publique et plus largement les médias sur la réalité de l'extrême droite en France et le fait que le racisme n'est pas mort. La montée de la xénophobie, y compris à la droite de l'échiquier politique, pas seulement l'extrême droite, la banalisation du Front National et surtout la banalisation de ses idées. Et c'est ce que dit cette chanson. Parce que dans les années 80, SOS Racisme, tout le monde était antiraciste, il était de bon ton de ne pas inviter Jean-Marie Le Pen, et quand on le faisait, c'était un événement désagréable. Maintenant, on est en 2021, l'extrême droite, elle a son rond de serviette dans sur tous les plateaux télé. Dans les années 90, il y a une espèce de glissement, une espèce d'hégémonie culturelle qui fait que les thématiques, notamment après la guerre du Golfe et presque une décennie avant le 11 septembre 2001, commencent à se banaliser. Parce que la décennie noire en Algérie a des conséquences. Il y a des attentats qui vont, au milieu des années 90, avoir lieu sur notre territoire. On commence à nourrir la peur du djihadisme dans nos rangs. C'est les années de Khaled Kalkal, qui est aussi, lui, un enfant de l'immigration algérienne de la région lyonnaise. Et on a aussi les polémiques autour des voiles des petites filles dans les collèges. On commence à montrer du doigt la montée de l'islam en France. Et, la figure du beurre va s'effacer pour laisser place à celle de la figure dangereuse du jeune de banlieue. Et lui, il raconte ça dans Voilà, voilà que ça recommence. il met en garde et il inscrit peut-être dans l'histoire de France la collaboration de 40. Il ne fait pas référence qu'aux contemporains. Il dit soyez vigilants parce qu'on a vite fait de laisser monter les peurs et la xénophobie. Et du point de vue musical, vous la mettez et on tombe en transe, ça danse. On est dans les codes de l'électro les plus à l'avant-garde à l'époque et on ne sait pas ce qui prend le pas, le message ou la musique. Voilà, ça commence.
Je ne viens pas de banlieue, mes origines sont méditerranéennes, mais plutôt du côté de l'Italie. J'écoute Carte de séjour, puis Rachita, depuis le début. On me parle du bon petit peuple de gauche. Je réponds que Ta me fait danser, et aussi que je le trouve hyper sexy. Morceau qui figure sur l'album Olé Olé, sorti en 1996. Sur la pochette, Rachita est blonde, avec des lentilles bleues. La photo est signée Jean-Baptiste Mondino.
J'ai eu l'opportunité de relire certaines de ses interviews dans les années de Olé Olé, où il parle de l'influence de Manfredi dans Pain et chocolat. C'est un film qui évoque l'immigration.
Qui est une comédie italienne.
C'est une comédie italienne qui met en scène donc Manfredi qui se teint en blond pour mieux se fondre dans la masse, pour perdre les stigmates de l'étranger. Et Rachid a beaucoup fait référence à ses copains quand il avait la vingtaine qui se faisaient passer pour des Italiens, qui portaient des croix chrétiennes, donc des croix, qui se teignaient les cheveux en blond pour rentrer en boîte de nuit. En fait, cette douleur de devoir se travestir pour effacer les stigmates de l'étrange étrangeté, c'est un peu un pied de nez. C'est l'ironie de Rachid qui, avec ses cheveux d'Algérien, va les teindre en blond pétard, va se jouer des codes de genre, des codes ethniques, va aller jusqu'à porter des lentilles bleues pour leur dire, pour dire à ses détracteurs, vous voulez nous dissoudre, nous effacer dans nos différences, je vais retourner les stigmates, me les approprier et vous expliquer pourquoi on est légitime, pourquoi on sera toujours debout contre l'infamie du racisme et du rejet de l'autre. Et un Rachid en blonde, c'est énorme. Et je trouve que cette provocation, elle est réjouissante parce qu'elle s'oppose à la violence par de l'ironie. Il n'avait pas forcément intérêt à le faire quand il l'a fait.
Pourquoi vous dites qu'il n'avait pas forcément intérêt à le faire ?
Parce qu'on a...
Là, on est en 96, ouais.
96, c'était le hip-hop, fallait être viril, c'était NTM. C'était pas je me tends en blonde et je danse sur de la techno, sur le dance floor. À l'époque, il aurait dû virer rappeur.
Sur ce même disque, Olé Olé, figure aussi ceci.
Ce qu'on ne dit pas de Rachid, c'est que lui nourrissait l'opinion que ces musiques électro devaient au rythme d'Afrique du Nord. à la musique gnawa, aux percussions nord-africaines, si vous voulez, et même d'Afrique noire. Et c'est rendre à César ce qui est à César. Il voulait réconcilier cette émanation des percussions africaines qui avaient voyagé en mélangeant les rythmes oranais, gazba, gellel, donc percussions flûtes de l'ouest algérien, les violons égyptiens avec les riffs de guitare, les percussions, les beats. Et cette collaboration extraordinaire avec Stevie Lage, elle va prendre différentes formes, et notamment il y a Indie 1 plus 1 plus 1 avec Bruno Maman, il y a Olé Olé, il y a voilà, des jalons dans la musique électro qui font de Rachid une avant-garde de l'électro à la française qui, me semble-t-il, a été minorée.
En 93, Rachita est donc un pionnier de l'électro en France, tandis que la musique électronique à la française dite French Touch est en train d'émerger. Et quand la French Touch devient grand public à la fin des années 90, Rachita va voir ailleurs. Il revisite son patrimoine avec un album qui s'intitule Diwan. Et on est heureux cette année-là. Le 12 juillet, la France est en finale de la Coupe du Monde contre le Brésil. Et Jacques Mondrou est à faune.
30 secondes à jouer et la France va être championne du monde de football pour la première fois de son histoire. Dugarry qui part balle au pied, qui va donner à un de ses coéquipiers. Voilà, c'est fait. Il donne le ballon à destination d'Emmanuel Petit qui marque.
Marquin.
Voilà, Emmanuel Petit qui marque. L'équipe de France qui est championne du monde. C'est officiel, c'est sûr, c'est certain. Il ne peut plus rien nous arriver. La France et championne du monde de football.
C'est de la pure folie là. C'est de la pure folie. Je les connais pas, tout le monde sait, tout le monde dit les mots.
Zidane, il est du même patelin que nous. Il est de Béjaïa, Algérie. On est très content, on est venu ici en France pour supporter l'équipe de France. Et c'est pour Zidane.
Au printemps 1998, Rachita ressort la reprise qu'il avait faite de Yaraya, une chanson écrite au début des années 70 par Darman El Arachi, un maître du Shaabi algérois. Après avoir été ouvrier à Longwy, en Lorraine, Darman El Arachi est immigré à Paris. Avec Yaraya, il met aussi en garde tous ceux qui sont tentés par l'exil. Naïma Uberiaï.
C'est ce blues de l'exil, Rachid va en faire un tube dance floor dans ces années 90, ces années où on croit à cette France black blanc beurre, et va, grâce à l'aide de la production d'un Steve Hillage, le rendre audible en mélangeant un thème traditionnel au banjo de la chanson à une production électro avec Steve Hillage.
Le 26 septembre 98, Cheb Khaled, Faudel et Rachita sont à Bercy, l'une des plus grandes salles de France pour le concert 1, 2, 3 Soleil. Ce concert, comme le live, gravé sur disque, sont orchestrés par Stevie Lage. Il fait découvrir Yaraya au monde entier et il fait découvrir Yaraya aussi aux gens de la même génération que lui. C'est-à-dire enfant d'immigrés, il leur fait découvrir le patrimoine, ce moment-là.
Et il me fait découvrir le patrimoine, parce que moi, j'ai 20 ans, et j'entends ça, et là, c'est la révolution. Là, ça y est, il nous réconcilie avec notre patrimoine familial, avec la valise en carton pleine de 45 tours de chanteurs immigrés de nos parents, avec des moustachus en veux-tu, en voilà. Et nous, on est là, voilà, oh le manche disque orange, là, vous savez, des immigrés dans les années 70-80, et là, on a envie d'ouvrir la malle. Là, on a envie d'ouvrir la valise et dire, bah, en fait, c'est quoi cette musique? C'est génial. C'est un trésor. Il fait de cette valise en carton périmée un trésor. Un trésor de guerre pour nous. qui nous ramène à nos parents, qui nous ramène à cette musique-là. Et moi, quand j'entends Yaraïh, c'est la folie. C'est la folie. On danse, on sort nos pas de danse orientaux, la musique tradie dont on avait presque honte, là, ça devient hype. Et les potes nous appellent et disent « Ah, c'est ta chanson, faut venir !» Et là, on a une espèce de communion, voilà, une communion. On est fiers. Qu'est-ce qu'on est fiers ? Vraiment. Et tout le monde a envie de nous ressembler. C'est comme quand on disait... tout le monde avait envie d'embrasser un arabe le soir du 12 juillet 98, il s'appelait Zinedine Zidane. Et ben nous, on avait envie d'embrasser Rachid sur les deux joues et lui dire merci parce qu'on n'a plus honte de nous, on n'a plus honte de cette différence. Et parce qu'on est branché, quoi.
Merci.
Rachida, je pense que c'est quelqu'un qui a été ouvert aux rencontres et qui n'a jamais été impressionné par qui que ce soit. Quand il fait une reprise plus tard de Rock El Casbah, Rock the Casbah, de Clash, la légende voudrait que c'est une démo de Carte de Séjour qui aurait inspiré Rock the Casbah au Clash. Donc, une espèce de plagiat. C'est Rachid qui raconte ça. Rachid, il reprend Rock El Casbah, même aux... Il n'y a pas de crime de lèse-majesté, même en Angleterre. La presse qui est plutôt féroce, la presse musicale britannique, salue la reprise. Parce qu'il a assumé et qu'il en était capable. Et que, comme il est dans l'ironie, quand il fait cette reprise, comme il dit, il rajoute le Texas, les puits de pétrole au Texas. Il critique l'Amérique de Bush qui déclenche des guerres, notamment dans le monde arabe et dans le monde entier.
Rebecca Manzoni, Pop & Co.
Ce matin, Pop & Co est Pop & Rachida. Et en quelle année sommes-nous ?
2006.
Rachida publie l'album Take It Toi avec Mick Jones, guitariste de The Clash, Stevie Lage, toujours, et Brian Eno, notamment producteur de David Bowie, Talking Heads, etc., etc. Et revoici Naïma Huberyeye.
Qui, à part lui, enfin, je veux dire, pour quel autre artiste français on ne peut avoir Mick Jones, Brian Eno? Moi, je ne connais pas. Je veux dire, on nous a dit que Johnny était le plus grand rocker français. Rocker, alors, ils ne sont pas dans la même catégorie du rock. En tout cas, le rock anglo-saxon, lui, a adoubé Rachita. Sauf que Rachita, lui, n'a pas été adoubé, entre guillemets, par le rock français. En tout cas, on l'a enfermé dans la catégorie musique arabe, braille. Alors que lui, il avait... Pour Brian Eno, il était considéré comme le plus grand rocker français. Rachid a été plus une vedette à l'international qu'en France. Il n'était pas compris ici. Il a été incompris. Mais je peux vous dire, pour l'avoir vu à l'étranger, il était adulé. Et il incarnait la France.
Pour l'une des chansons de l'album Tequitoire et pour d'autres, Rachida s'inspire du guitariste afro-américain Bo Diddley, que voici.
On retrouve ça dans Hezbollah, qui a beaucoup bercé les révolutions arabes, qui dit « Dites-leur de rendre des comptes ». Il demande à ses pouvoirs dictatoriaux dans les pays du monde arabe, notamment en Algérie, de rendre des comptes. Et ensuite, il scande des insultes à leur égard. C'est des puants, c'est des voleurs. Il dit ça à la rue arabe. Il s'est inspiré des mouvements sociaux en Algérie. C'est un peu le Hirak algérien d'aujourd'hui, avant le Hirak. Il prend en charge ses revendications de la société algérienne qu'il va diffuser dans tout le monde arabe. Ses chansons, elles vont renverser, chavirer de bonheur les publics de Jordanie. Dans le monde arabe, il est vraiment accueilli comme un grand artiste rock qui va raconter ce ras-le-bol et cette demande de démocratie de la rue arabe. Et ça, c'est avant 2011. On est en 2004-2005. Donc voilà, il le fait sur des rythmes de Bo Diddley. C'est extraordinaire.
Septembre 2018, Rachida meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 59 ans. Un an après sa mort paraît « Je suis africain », qui n'est pas un album posthume puisqu'il l'a porté du début à la fin, mais il est décédé avant sa sortie.
Quand il dit « Je suis africain », il dit qu'il est profondément humain, parce que c'est l'Afrique comme berceau de notre humanité. Et Rachida était loin de promouvoir une forme de communautarisme. Aujourd'hui, on va dire qu'il chante en arabe, il est communautarisé sur le repli sur soi. Pas du tout. Il rend universel tout ce qui touche. Et quand il rend hommage à des figures, il parle de Derrida, Katabi Yassin, ou d'autres figures un peu de la pensée, on va dire, panafricaniste, postcoloniale, post-raciale. C'est ça qu'il est, Rachid. Il est post-racial. Pour moi, je suis africain. C'est pas un testament, mais c'est un manifeste. Et je pense qu'il nous ouvre avec « Je suis africain » à ce qui nous constitue, c'est-à-dire notre humanité.
Et je suis africain, africain du nord au sud. Et je suis africain, dedans comme dehors. Je suis africain, je n'ai pas le rythme dans la peau. Je suis africain, un albinos afro.
Douce Mars France, c'est le titre d'une exposition qui doit se tenir à Guingamp à partir du 21 septembre et qui sera à Paris au Musée des Arts et Métiers mi-décembre. L'historienne Naïma Hubert-Yahi, que vous avez entendue tout au long de cette émission et que je remercie chaleureusement, Naïma Hubert-Yahi donc est la co-commissaire de cette expo à venir. Un loup pour l'homme, c'est le roman où Brigitte Giraud porte son regard sur la guerre d'Algérie et Jour de courage, c'est son dernier livre publié aux éditions Flammarion. À lire aussi Rock la Casbah, l'autobiographie de Rachid Taha, écrite avec Dominique Lacou, parue chez Flammarion dans la collection Pop Culture.
Allô, c'est Eddy, tu as besoin que je parle.
Affirmatif. Eddy Depréto au bout du fil de Pop & Co, avant de le retrouver en chair et en os dans l'émission de la semaine prochaine. Eddy Depréto, qui choisit un morceau aujourd'hui parmi tous ceux diffusés sur France Inter en ce moment.
Pour moi, ce serait Green Eyes de Arlo Parks, parce que j'aime beaucoup cette chanson et que cet artiste, précisément, je vais la rencontrer dans le cadre d'un concert France Inter et que j'ai écouté son album et que j'ai beaucoup aimé artistiquement ce qu'elle proposait.
Elle est anglaise et vient de publier son premier album. Voici donc Arlo Parks dans Pop & Co avec Green Eyes. Mercredi prochain, 31 mars, Arlo Parks et Eddy Depréto seront en concert en direct pour une double affiche. Ce sera sur France Inter dès 20h. Coy Nguyen est le réalisateur de Pop & Co. avec Ludovic Asselot ce matin. Ilinka Negulesco assure la préparation et JB Audibert la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co. et Pop & Étienne Dao. Et on suivra le sillage d'un bateau-mouche. À samedi. Après les infos, vous retrouvez le grand face-à-face d'Ali Badou avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. L'invité du jour, c'est Gaspard Koenig, philosophe et écrivain.